Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, après ces consultations, c'est vous, auditeurs d'Europe 1, qui vient éclairer, chouchouter, c'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré aux hommes et à une partie de leur anatomie bien spécifique, les testicules. Nous sommes en novembre, en pleine opération Movember, ce mois où l'on parle des cancers au masculin et durant lequel on peut aussi se laisser pousser la moustache en signe de ralliement, de soutien pour ceux qui le souhaitent. Donc nous, on a décidé de ne pas se laisser pousser la moustache, mais de faire un petit focus aujourd'hui sur ce qu'on appelle vulgairement les bijoux de famille, sur leurs fonctions, les différents petits et gros bobos qui peuvent les toucher. On parlera aussi bien sûr du cancer des testicules et pour cela, notre invité, ce sera le professeur François Desgrandchamps. Il est chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. On va parler de la diverticulite, une infection de l'intestin. Savez-vous quels sont les symptômes? Comment cela se traite? Eh bien, le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout ce qu'il faut savoir. Et puis, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle va nous parler du sexe à plusieurs, à trois par exemple, pourquoi certains sont tentés par ce type d'expérience.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Anissa.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me posais une question, j'entends souvent le terme de radicaux libres dans les émissions de santé. Je voulais savoir ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour vos réponses, bonne journée.
Et merci à vous Anissa pour votre question. Alors pour vous répondre, on a interrogé une spécialiste, c'est le docteur Catherine Lacronière. Elle est médecin nutritionniste à Paris, on l'écoute.
Les radicaux libres sont des petites molécules instables que nous fabriquons de manière obligatoire lorsque nous dégradons l'oxygène, et l'oxygène est indispensable à la vie. Nous dégradons parce que nous avons besoin de fabriquer dans la cellule de l'énergie. Lorsque ces radicaux libres sont fabriqués en excès, c'est le cas quand on fume, c'est le cas en période de pollution ou quand on prend trop le soleil. Eh bien, quand il y a trop de radicaux libres, on a ce qu'on appelle un stress oxydatif qui conduit à un vieillissement accéléré et à une mort des cellules. Donc il faut absolument s'opposer à cette oxydation en excès et ce sont les antioxydants. Les antioxydants, quant à eux, se trouvent dans l'alimentation, alors que les radicaux libres ne se trouvent absolument pas dans l'alimentation. Nous les fabriquons et c'est obligatoire.
Et les antioxydants, on les trouve dans quel type d'aliments, par exemple?
Alors, les antioxydants sont présents dans beaucoup d'aliments. Ils prennent différentes formes. Ils peuvent être des vitamines, des minéraux. Par exemple, la vitamine C est antioxydante, la vitamine E, ou le bêta-carotène, qui est une provitamine A. Mais on en trouvera également dans le thé, dans le chocolat et même dans le vin, parce qu'il y a plusieurs familles d'antioxydants très oxydatifs qu'on peut déjà essayer de limiter si on se protège du soleil, si on arrête de fumer ou si on est moins dans la pollution.
Le vin que l'on doit consommer, bien sûr, avec modération. C'était le docteur Lacronière au micro de Benjamin Lévesque. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Karima qui nous l'a posée sur notre répondeur. La voilà.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce que mon fils était malade la semaine dernière, mon fils de 3 ans. Donc, je l'ai emmené chez le médecin qui hésitait entre une rhinopharyngite et le Covid. Finalement, le test PCR a montré que ce n'était pas le Covid. Néanmoins, avant d'avoir le résultat, le médecin nous a conseillé d'acheter un spray assainissant pour l'habitat qui a la prétention d'éliminer tous les virus. Ce spray coûtant quand même assez cher, je voulais savoir ce qu'on avait comme retour sur l'efficacité de ce type de spray. Voilà, merci beaucoup.
Jimmy, qu'est-ce qu'on peut répondre à Karima? Un spray assainissant pour l'habitat, soi-disant antivirus, tout virus, anti-Covid. Bon, elle ne donne pas la marque, hein, mais je crois que vous allez nous dire que peu importe la marque.
Oui, c'est ça strictement rien, qu'elle garde son argent. Et puis peut-être que vous allez vous croire faussement protégé avec ce genre de mesures. Souvenez-vous, au tout début de la première vague, on se demandait s'il était nécessaire de désinfecter les rues, puisque dans des pays, notamment en Chine, on balançait des trucs, on ne savait pas trop ce que c'était.
Javel, désinfectant.
Exactement, on désinfectait minutieusement tous les transports en commun. Et donc, on se posait la question de, est-ce qu'il faudrait faire ça? Eh bien, la littérature prouve que ça ne sert strictement à rien. Et autant la science n'a jamais été aussi rapide pour proposer un traitement et un vaccin du Covid, c'est extraordinaire. Autant les industriels, parfois, profitent de nos peurs, de nos craintes pour nous vendre des choses strictement inutiles et parfois dangereuses. Donc évidemment que ça ne sert strictement à rien.
Alors comment elle peut faire chez soi si elle a peur effectivement que le virus soit peut-être entré chez elle d'une manière ou d'une autre?
C'est une crainte qui est légitime. Et ce qu'on conseille aux gens et ce qu'on vous conseillera notamment pour les fêtes de fin d'année, de Noël et pour le Nouvel An, même si je pense qu'il va falloir être raisonnable et peut-être même choisir l'une des deux fêtes, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire à la fois Noël et le Nouvel An dans la foulée, c'est d'aérer, de renouveler votre air régulièrement, plusieurs fois par jour. Ça permet de dissiper le virus, puisqu'on sait qu'il peut survivre en suspension dans l'air au travers de ce qu'on appelle des micro-gouttelettes.
Vous dites ouvrir, mais ouvrir combien de temps? Parce que bon, on est en hiver, on se les gèle un petit peu quand même. Enfin, on n'est pas encore en hiver, mais pas loin.
Alors, d'une façon générale...
Il faudrait ouvrir tout le temps, de toute façon, Covid ou pas Covid.
Mais bon. Il faut renouveler l'air une à deux fois par jour. Et là, ça va dépendre de...
Moi, j'ouvre 15 minutes le matin, c'est bien, c'est pas
largement suffisant.
Oui.
Déjà, vous n'attraperez pas froid, ou le coup de froid n'existe pas. Le coup de froid, c'est lié au fait que vous rencontrez un virus. Là, si jamais vous avez des personnes qui viennent à la maison, ce que je vous déconseille, faites-le toutes les 2 à 3 heures, 5 à 10 minutes, c'est le temps nécessaire pour renouveler l'air et se débarrasser du virus si tant est qu'il soit là.
Un petit mot quand même sur ces sprays assainissants, c'était la question de départ. En plus, Jimmy, ça peut faire de la pollution intérieure.
Exactement.
Ces sprays qui contiennent parfois des huiles essentielles, on nous vend un truc très naturel, mais attention quand même, surtout s'il y a des asthmatiques à la maison.
Exactement, la pollution est plutôt plus fréquente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça peut être source de perturbateurs endocriniens, ça peut irriter les voies respiratoires et donc d'une façon générale, on vous déconseille ce genre de produit.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Karima qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Le docteur Jimmy Mohamed est à mes côtés, il n'a pas bougé bien sûr et c'est le moment d'accueillir dans ce studio. Donc notre invité pour le dossier du jour, c'est vous, professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et cet après-midi avec vous, on va parler d'un sujet dont on parle peu, vous nous disiez ça en préparant l'émission.
C'est assez tabou, oui.
Les testicules.
On parle
en
détail des testicules, c'est pas fréquent.
Et donc c'est très important. Alors on va commencer par un petit peu d'anatomie peut-être pour démarrer. Les testicules. Où se situent-elles, on va dire, sur notre corps, hein, enfin sur le corps des hommes, hein, évidemment. Est-ce qu'ils sont toujours ou pas au nombre de deux? Et quelle est leur fonction, finalement?
Alors, les testicules se situent à la racine des cuisses, de chaque côté du pénis, un peu en dessous du pénis. Ils ne sont pas à la même hauteur, parce que ça évite qu'ils se cognent, en fait.
Donc c'est normal, s'ils sont pas...
Il y a toujours un plus bas que l'autre. Donc, on a dit que c'était deux. Je pense que tout le monde le sait.
Et mais ça, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il peut y en avoir trois.
Il peut y en avoir trois, mais c'est assez
rare. C'est très étonné.
Je crois qu'il y a 140 cas dans le monde où il y a trois testicules. Et encore moins où il y en a quatre. Et en fait, ce sont des testicules qui sont divisés en deux au cours de la période embryonnaire. Donc en fait, les testicules marchent par deux. Et puis, ça sert à deux choses. Bien sûr, ça sert à la reproduction. Tout le monde sait que c'est là où sont formés les spermatozoïdes. Mais peut-être qu'il y a moins de monde qui sait que ça sert aussi à la testostérone. Il y a les cellules qu'on appelle cellules de Leydig qui, en fait, fabriquent la testostérone, qui est l'hormone mâle. Il y a 700 millions de cellules de Leydig par testicule. Donc
c'est vachement intelligent, finalement, un testicule.
Et dans un testicule, c'est comprimé. Le testicule, c'est un seul et unique cordon dans lequel viennent se déverser les spermatozoïdes. Et quand on déroule ce cordon, ça fait 250 mètres de longueur. Donc dans un testicule qui est, on en reparlera peut-être, mais qui fait à peu près 5 cm, il y a 250 mètres de fil qui est comprimé et 700 millions de cellules.
Finalement, il y a une grosse tuyauterie, y compris dans le testicule. Alors Jimmy.
Bravo pour cette relance.
Oui, c'était magnifique.
Ça intéresse tout le monde. Hein.
Non, mais moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de tuyaux à l'intérieur.
J'ai jamais vu Mélanie aussi fascinée par un sujet que celui-là. Elle boit vos paroles, professeur. Et justement, quand on est, donc en principe, sauf malformation particulière, on en a deux, mais parfois, elles ne sont pas toujours en place et au bon endroit.
C'est parce qu'en fait, le testicule, pendant la période fœtale, pendant la grossesse, les testicules naissent en face des reins. Et puis, au fur et à mesure que le bébé grandit, le testicule va descendre pour sortir de l'abdomen et passer dans la bourse dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, il peut y avoir un petit retard à cette descente. C'est assez fréquent, c'est 3-5% des naissances où le bébé naît alors qu'on ne palpe pas le testicule facilement. Il est resté bloqué en route. Dans l'immense majorité des cas, il n'est pas très loin et il va descendre dans les 6 mois qui viennent. Mais s'il n'est pas descendu dans les 6 mois après la naissance, alors il faut le faire descendre et en règle, il faut l'opérer pour faire descendre, abaisser le testicule, c'est le terme qu'on utilise.
C'est une grosse intervention.
C'est une petite opération. Et parce que si on le laisse, il va rester au chaud, alors que les testicules sont dans les bourses pour être un peu au froid, peut-être 4 degrés de moins que la température du corps, pour que les spermatozoïdes puissent bien se développer, qu'ils soient un peu au frais.
Donc c'est le seul endroit du corps des hommes finalement qui n'est pas à 37, c'est ça?
Oui, avec le bout du nez, mais c'est plus, c'est moins facile au bout du nez quand même.
Non, mais on apprend plein de choses.
Et donc, il faut descendre ces testicules à partir de 6 mois, parce que sinon après ils vont s'abîmer, à la fois ils vont avoir moins de spermatozoïdes et peut-être moins de cellules de Leydig.
La taille des testicules, vous en avez un petit peu parlé,
c'est
la moyenne.
C'est à peu près 5 cm, 4 à 5 cm.
Alors, sauf que c'est une moyenne, tout ça. Est-ce que ça change quelque chose pour les hommes de les avoir plus ou moins menus, je dirais?
Non, et en fait, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas dans mon expérience, qui est maintenant de plusieurs dizaines d'années, de consultants qui viennent pour savoir si leurs testicules sont normaux.
Le pénis, oui, par contre.
Le pénis, ouais. Oui. Les testicules, c'est 4,5 à 5 cm de grand axe. C'est un peu ovoïde. Par contre, il faut s'alerter si un testicule est très petit ou si un testicule est très gros. On y viendra tout à l'heure parce qu'il y a des maladies qui touchent les testicules.
À partir de quel âge on commence justement à sécréter de la testostérone pour créer des spermatozoïdes, puisque autant chez les petites filles, elles naissent avec un stock de follicules prédéfinis, autant chez les garçons, au tout début, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça?
Oui, effectivement, les spermatozoïdes sont sécrétés à la demande. C'est que plus on éjacule, plus on va fabriquer de spermatozoïdes. Au contraire, par exemple, dans les vasectomies où on va fermer l'évacuation des spermatozoïdes, les testicules vont se mettre au ralenti. Donc on les fabrique à la demande et ça commence effectivement à la puberté. Il y a un tout petit pic de testostérone quelques mois après la naissance pour aider le testicule à descendre dans la bourse, puis après tout s'arrête et ça va reprendre vers 12-14 ans doucement et puis monter, et c'est à ce moment-là que les spermatozoïdes vont commencer à se former.
Professeur Desgrandchamps, est-ce que vous vouliez compléter quelque chose?
Oui, sur la vasectomie, il y a quelque chose qui m'inquiète, parce que du coup, imaginons on fait une vasectomie.
Vous êtes intéressé par cette émission, je trouve. Hein.
Ouais. Disons que j'ai eu 3 enfants, je n'en aurai pas d'autres, donc c'est un sujet de discussion éventuelle. Bref.
Alors,
vous dites que du coup, plus on se sert en gros de ces testicules, plus on va sécréter des spermatozoïdes. Ça veut dire qu'à contrario, si on fait une vasectomie, la taille des testicules va diminuer.
Non, la taille reste. Les 250 mètres de tube sont toujours là. Simplement, il n'y a plus de fabrication, de maturation de spermatozoïdes. Les cellules restent à l'état quiescent. Et puis, si on remet le vaisseau en ligne, c'est-à-dire si on redébouche le vaisseau qui a été vasectomisé, à ce moment-là, ça repart.
Est-ce que ça se greffe, les testicules? Alors, je ne sais pas si on devait l'enlever pour des raisons chirurgicales, pour une maladie ou autre, est-ce qu'on peut greffer? Je crois qu'il y a eu des histoires un peu bizarres, un peu malheureuses.
Mais c'est fin du 19e siècle. C'était Voronoff qui greffait des testicules soit de singes, soit de taureaux à des hommes pour renforcer leur virilité. Alors ça marchait pas.
Ça marche pas, Jimmy, cherchez-moi.
Ça pouvait pas marcher parce que
complètement.
C'était une greffe interespèce, donc c'était rejeté immédiatement. Mais l'idée, c'était qu'il y a une substance, mais qui n'était pas connue à l'époque, dans le testicule, qui est virilisante. On l'a isolée après, ça s'appelle la testostérone. Et donc maintenant, plutôt que de greffer des testicules, chez les hommes qui manquent de testostérone, on fait des injections de testostérone régulièrement. On n'a pas besoin de greffer un testicule pour ça.
Est-ce que c'est fragile, les testicules? Parce que bon, on sait tous, hein, si un garçon se prend un coup de pied dans ses parties, on sait parfois ça peut couper complètement le souffle, que c'est quelque chose qui fait très mal. Enfin, c'est ce qu'on raconte, en tout cas, nous les femmes, on n'en sait pas grand-chose. Mais est-ce que c'est si fragile que ça, les testicules?
Alors ça dépend où vous mettez le degré de fragilité. Ça a été testé.
Parce qu'on dit parfois, tu me brises les... est-ce que ça se brise justement?
Ça se brise et il faut mettre 50 kilos de pression pour briser ça.
Ah, donc...
toutes les femmes peuvent le faire. Quoi.
50 kilos
un coup de pied ou un ballon de football qui arriverait à...
Ça fait 50 kilos de pression, bien sûr, avec l'énergie cinétique. Et l'autre problème de des grands chocs dans les testicules, c'est donc il y a l'écrasement, mais il y a aussi la luxation.
C'est-à-dire
que le testicule, en principe, est au fond de la bourse. Ouais. Et si vous recevez un grand choc, un coup de pied ou un réservoir de moto, par exemple, quand vous décélérez brutalement, le testicule va remonter et peut plus redescendre. Donc en fait, ça s'opère pour les redescendre.
Ah, parce que du coup, si jamais ça arrive à quelqu'un qui nous écoute, inutile d'essayer de le refaire descendre tout seul
avec
la main.
C'est bloqué, ça s'opère, et puis on les débloque et on les abaisse.
Vous connaissez la luxation d'autre chose, mais
la luxation du testicule,
ça
pas l'air sympa.
Comment on en prend soin, si on doit en prendre soin de ces testicules? Entre guillemets, hein, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que vous disiez c'est quand même assez fragile, ça doit rester en dehors du corps, puisque la température est très importante.
Ça doit rester un peu au frais.
Est-ce qu'il faut mettre des caleçons en particulier, pas trop serrés, j'en sais rien, faire attention à pas mettre le téléphone proche? Souvent on nous dit attention, le téléphone, ça va donner des cancers ou je ne sais quoi.
Il y a plein de rumeurs.
Qu'est-ce qu'on fait pour en prendre soin normalement? On va
peut les éliminer doucement. Le téléphone dans la poche, ça chauffe, mais de là à chauffer à plus de 4 degrés en permanence,
l'ordinateur portable sur les testicules.
Non, c'est pas vrai non plus. Il faut que ce soit durant des mois, des années. Donc. Alors après, les sous-vêtements. Si vous avez des testicules sensibles, il vaut mieux pas mettre de caleçon, mais des sous-vêtements un peu serrés pour qu'ils soient bien tenus. Voilà, c'est surtout ça. Et puis en prendre prendre soin, c'est les examiner. Alors, pas forcément se les toucher toutes les 5 minutes, comme dans le sud de la France.
Mais par contre... C'est pas gentil, ça, pour les gens du sud de la France. Temps, moi, j'en connais beaucoup. Non, tous les hommes de ma famille, ils font rien du tout. J'ai jamais vu ça.
Mais il faut de temps en temps...
Soit ça va beaucoup rire Jimmy, en tout cas.
Soit se faire aider, soit le faire soi-même. Mais regardez s'il y a bien juste une formation à l'intérieur. Bon. C'est pas douloureux, pas gros, pas
irrégulier. Je vais voir si je vous pardonne cette blague sur les gens du sud, professeur Desgranchons. Je suis pas sûre. On va se faire une petite pause. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si je vous dérange, les garçons.
Tout va bien.
Une émission sur les testicules, ils sont déjà en train de parler tous les deux. Faites comme si j'étais pas là, bien sûr. Mais donc, le professeur François Desgranchons avec nous en studio aujourd'hui. Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et donc, dans ce studio, vous parlez avec Jimmy des testicules. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, on va passer maintenant aux bobos qui peuvent les toucher, ces testicules. D'abord, un testicule, il faut le savoir. Ça ne doit pas faire mal, jamais.
Non, il y a deux situations où on peut avoir des bobos dans les testicules. Soit parce que la bourse est douloureuse, soit parce qu'elle est grosse. Voilà, c'est les deux signes qui doivent alerter. Alors, quand ça fait mal, il y a deux diagnostics. Le diagnostic plutôt des jeunes hommes, c'est la torsion du testicule, qui est une anomalie de la fixation du testicule dans le scrotum. Mmh. Et donc, pour des occasions diverses, brutalement, c'est une douleur sévère. Et puis, l'autre situation, c'est l'infection. L'infection souvent sexuellement transmissible.
Oh, on peut avoir une infection dans les testicules, c'est bizarre.
Une infection de la structure qui est autour du testicule, qui conduit la spermatozoïde, qui s'appelle l'épididyme.
C'est une espèce d'enveloppe autour, c'est ça ?
Ça chapeaute un peu le testicule et ça aspire les testicules pour les emmener vers la sortie. Et donc, on peut avoir une infection de cette structure-là, c'est l'épididymite, mais dans ces cas-là, l'épididymite, ça commence doucement et il y a de la fièvre. Mmh. La torsion, c'est une douleur très brutale, sans fièvre et surtout des jeunes adolescents.
Donc, on l'a dit, ça reste malgré tout assez fragile. Et imaginons un enfant, par exemple, qui reçoit un coup. Si jamais, en s'asseyant sur la selle de son vélo, il rate un peu son coup, il se fait mal au testicule. Est-ce que c'est un enfant qu'on doit amener consulter ? Est-ce qu'on doit...
Si la douleur persiste, oui. Et l'examen clé, c'est l'échographie. C'est-à-dire que quand un testicule se rompt, il saigne. Et donc, il y a du sang dans la bourse. Et donc,
c'est comme une fracture,
C'est comme une fracture. Ouais. On appelle ça une fracture au testicule, d'accord, d'ailleurs, parce que la structure externe du testicule s'appelle l'albuginé. C'est une membrane très épaisse, fibreuse épaisse. Mais quand elle est sous pression, elle peut se déchirer. Ce qu'on appelle la fracture au testicule. À ce moment-là, l'intérieur du testicule sort dans la bourse. Il y a du sang. Et on voit le sang. La bourse devient grosse et bleutée. Mais dans le doute, il faut faire une échographie. Si l'enfant a mal au bout de 10 minutes, garde des douleurs, il vaut mieux aller aux urgences pour savoir si le testicule a été rompu ou pas.
Donc, un testicule gonflé, vous avez un petit peu expliqué ce que ça pourrait être, mais ça peut gratter aussi le testicule. Est-ce qu'il peut y avoir des choses de point de vue externe, on va dire?
Oui, mais dans ces cas-là, c'est plus cutané. Ce sont des allergies, par exemple, des allergies à une nouvelle lessive ou autre. Ça peut provoquer un prurite. On appelle ça un prurite. Une mycose, c'est beaucoup plus rare. C'est plutôt la verge. C'est plutôt un prurite allergique, en fait.
On peut aussi avoir du liquide dans le testicule, qu'on appelle un hydrocèle.
C'est ce qu'on appelle l'hydrocèle. Alors là, personne ne sait à quoi c'est dû. C'est un prix Nobel à venir. Peut-être c'est moi qui l'aurai, parce que pour l'instant,
personne ne sait. Alors dites-nous tout, on veut tout savoir sur l'hydrocèle.
Alors, ça vient d'où ? Ça vient du fait que, vous l'aurez tous remarqué, les testicules sont mobiles dans la bourse. Ça peut tourner un petit peu. Pourquoi ? C'est pour éviter les coups de pied de Santiago et autres. Le testicule va éviter...
Il est intelligent, ce testicule, finalement.
Va éviter le choc parce qu'il y a un tout petit peu de liquide entre le testicule et la paroi de la bourse.
D'accord.
C'est bien huilé, si vous voulez. Et l'anomalie, c'est quand ce liquide devient trop abondant. À ce moment-là, le scrotum peut gonfler.
Oui, donc le testicule qui gonfle, c'est pas le testicule en lui-même qui gonfle.
Non, c'est du liquide qui est autour, qui en principe est presque virtuel. C'est quelques gouttes. Là, ça devient plusieurs centaines de millilitres. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi c'est dû, du tout. Et puis, le seul traitement, c'est d'opérer. Et pour opérer, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas de divider le liquide. Il se reconstitue en quelques jours. Mais il faut enlever la membrane qu'il sécrète, ce qu'on appelle la vaginale. Ça, c'est encore une surprise de l'anatomie. C'est un truc très masculin, ça s'appelle la vaginale. Cette structure s'appelle la vaginale. Donc, on enlève cette enveloppe parce qu'on ne sait pas comment empêcher qu'elle sécrète.
D'accord. Dans le testicule, il y a un autre problème. Alors, vous allez, je crois, me dire que je me trompe, mais ce qu'on appellerait, nous, une espèce de sciatique du testicule. C'est quoi ce problème-là ?
Oui, alors c'est un raccourci, si on veut. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes, on évalue jusqu'à 10%, mais ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui peuvent se plaindre de douleurs pelviennes, de douleurs dans le petit bassin, avec des douleurs, par exemple, du gland ou des douleurs des bourses, d'un testicule. sans qu'aucun examen soit anormal.
Radiographie, tout va bien.
Tout est bien, ouais. Le scanner est normal, tout est normal et ils ont mal. Et donc là, il faut se rappeler que quand quelqu'un a une sciatique du membre inférieur,
donc de la jambe, par exemple,
jambe. On examine la jambe, elle est normale la jambe. On fait plein d'examens, on voit rien, sauf si on s'intéresse aux nerfs. Puisque le sciatique, c'est une compression du nerf de la jambe. Eh bien, il y a des nerfs pour le testicule. Ces nerfs peuvent être comprimés dans le petit bassin et ça donne des douleurs importantes qui peuvent être pluricotidiennes, gêner le travail en position assise et autres. Et puis, les hommes finissent par, être abandonnés des médecins qui ne savent pas quoi faire, alors que la ressource, c'est soit avec un scanner, on peut infiltrer les nerfs qui innervent le scrotum, soit on peut confier ces patients aux ostéopathes qui font de très, très, très bons travail dans ce domaine.
Très intéressant. Je ne savais même pas que ça existait, le de sciatique du testicule, sciatique. Qui est soigné par l'ostéopathe. On le retient.
C'est pas mal. On peut aussi avoir une hernie à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas tout à fait le testicule,
oui.
Mais c'est...
Oui, oui. C'est-à-dire que l'endroit, le trou dans le ventre par lequel passe le testicule, quand le testicule descend au moment de la naissance, se referme plus ou moins. Et la hernie inguinale que tout le monde peut connaître, la grosseur qu'on a à la racine de la cuisse, passe par le même trajet que où était passé le testicule pendant la période néonatale. Et donc, quand la hernie est importante, elle va descendre dans la bourse et se mettre à côté du testicule. C'est une autre cause de grosse bourse sans douleur.
Je reviens sur la torsion testiculaire que vous avez un petit peu démarré tout à l'heure. Mmh. C'est quoi précisément? Alors, pourquoi ça se passe? Comment ça peut tourner tout d'un coup? Il y a forcément un coup. Ça arrive lors des rapports sexuels. Et vous disiez plutôt chez le jeune homme. Alors pourquoi chez le jeune homme?
Ça arrive chez le jeune homme parce que ça arrive vite dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une anomalie de fixation du testicule dans la bourse. Le testicule peut bouger un peu, mais ne peut pas tourner sur lui-même. Parce que s'il tourne sur lui-même, il va entraîner les artères qui le nourrissent. Et l'artère qui va être tordue ne va plus pouvoir passer du sang. Et c'est un infarctus testiculaire. Et lorsqu'il y a une torsion...
Il n'y a pas que l'infarctus du cœur.
Non,
il y a l'ascétique du testicule. L'infarctus du testicule,
c'est un grand tout, le testicule.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on a 6 heures pour détordre un testicule chirurgicalement ou manuellement au départ. Et donc ça,
manuellement, comment on fait ça?
Alors, le testicule se tord toujours dans le même sens. Parce qu'en fait, il se tord lorsque les muscles de l'abdomen se contractent. Ils envoient des muscles qui s'appellent les crémastères dans les bourses. Et donc, les muscles tirent toujours du même côté. Et le testicule droit se tord en se vissant et le testicule gauche en se dévissant. Ce qui veut dire que le moyen mnémotechnique, si vous avez à la plage un jeune homme qui a une douleur brutale du testicule,
mais bien sûr, je me vois tout de suite intervenir, c'est pas évident.
Pas forcément,
mais ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais vous détendre tout ça. Et donc, dites-nous comment on va faire, même si je suis pas sûr que les gens vont entendre.
Vous allongez le jeune homme, vous mettez à sa droite, vous prenez le testicule droit et le moyen mnémotechnique, il faut dévisser le droit, d'aider, et visser le gauche. Et grâce à ça, il aura plus mal.
J'espère que vous serez avec en famille avec moi, Jimmy, et votre famille.
Mais ça vous est arrivé, vous m'avez dit que
ça
est arrivé une fois dans votre.
Ça m'est arrivé dans les années 60 matin sur une base de loisirs dans le 19e arrondissement. Un jeune homme qui n'avait pas osé dire que c'était une douleur de testicule. Et souvent, les adolescents ont honte de dire qu'ils ont mal au testicule. Donc peut-être qu'il faut aussi leur poser la question directement. Quand ils ont mal au ventre, ils ont du mal à dire que c'est en bas et ils tardent. Donc, vous l'avez dit, dans les 6 heures, il faut être opéré.
Oui, chaque heure, compte. Hein.
Oui, parce qu'après, le testicule n'a plus de sang et puis est détruit.
Ah oui, il est mort et il faut l'enlever, quoi, c'est ça?
Il faut l'enlever, après il va s'atrophier, après il y a un problème de prothèse. Alors, pas de problème de fertilité parce qu'il y a l'autre testicule, mais la question est de se poser, c'est savoir s'il faut fixer l'autre préventivement, parce que s'il y a une anomalie d'un côté, peut-être qu'il y a la même anomalie de l'autre côté, et donc il y a des discussions sur
mais
la fixation préventive.
Si on le traite tôt, pas de souci, si on le prend en charge rapidement.
Si on le détort tôt, il n'y a pas de souci.
Très bien, professeur Desgrandchamps, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le professeur François Desgrandchamps. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors avant de terminer cette dernière partie de l'émission avec vous, on va écouter un extrait du clip de sensibilisation contre le cancer des testicules. Écoutez bien l'acteur Bruno Solo en pleine partie de bowling, il est très clair.
Avec les gars, nos boules, c'est toute notre vie. On ne peut pas rigoler avec notre matériel. On doit vraiment en prendre soin. Mais le plus important, c'est que notre matériel ne nous fasse pas faux bond. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame. Les gars, faites gaffe à vos boules. Ce serait vraiment trop couillon.
Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel.
Voilà le message à passer, surveillez votre matériel. Professeur Desgrandchamps, le cancer du testicule d'abord, c'est étonnant, mais il faut le savoir, c'est un cancer qui est de plus en plus fréquent. Pourquoi ? Est-ce qu'on sait ça ?
Il y a deux causes. Une cause un peu plus ancienne qui sont les perturbateurs endocriniens qui augmentent très peu le risque. Mais ce qui augmente beaucoup le risque, c'est la consommation de cannabis qui est de plus en plus fréquente et populaire et qui va jusqu'à multiplier par 3 le risque de cancer du testicule à partir de 1 juin par semaine. Donc c'est une alerte qu'il faut donner à toute la population, jeune en particulier, sur ce risque peu connu.
Parce que comment est-ce que le cannabis peut influencer le développement d'un cancer au niveau du testicule ? On pense à cannabis, cigarette, poumon. On a du mal à faire le lien avec les testicules.
En fait, le cannabis fonctionne récréatif sur le cerveau par certains récepteurs qui sont sensibles au cannabis et il se trouve que les mêmes récepteurs se situent dans le testicule.
Oui, d'accord.
Peut-être le deuxième cerveau de l'homme, je ne sais pas. Mais en tout cas, au testicule, ça ne lui fait pas du bien. Et donc, ça augmente
fortement. Au cerveau non plus, d'ailleurs, on peut le répéter au passage.
Ça augmente fortement le risque de cancer du testicule. Alors, ça augmente le risque. Ça reste un cancer qui est rare. Il y a 2000 cas par an en France, à peu près. C'est un cancer, on en parlera peut-être, que l'on guérit très bien quand il est pris très tôt.
Des patients jeunes, il faut le dire aussi, souvent.
Il y a deux pics dans le cancer du testicule. Il y a le pic du jeune homme autour de 18 ans, 18-20 ans. Et puis après, il y a un autre pic autour de l'homme moins jeune, autour de 60 ans. Et ce n'est pas la même nature de tumeur. Les tumeurs de l'homme jeune sont plus agressives.
Dans l'esprit des gens et des patients, un cancer doit faire mal et donc on se dit que tant que je n'ai pas de douleur au testicule, c'est que tout va bien, c'est une idée reçue.
Ah, c'est un très bon point à souligner. Effectivement, le cancer du testicule ne fait rien, sauf la perception quand on palpe le testicule d'un petit nodule dur,
un
petit noyau, c'est le bon terme, dans un testicule, ça doit alerter. C'est pas forcément un cancer parce que quand on n'est pas très entraîné, on peut sentir un petit noyau qui n'est pas un cancer du testicule mais qui est un kyste de l'épididyme bénin. Mais dans le doute, si on palpe une anomalie dans le testicule, il faut consulter, il faut faire une échographie qui est encore, comme pour le coup dans les testicules, l'examen clé.
Et vu ce que vous dites, ça veut dire que comme les femmes finalement qui doivent se palper régulièrement la poitrine pour se toucher par rapport au cancer du sein régulièrement, nous on nous conseille de le faire au moins une fois par an à partir de 30 ans. Est-ce que les hommes aussi devraient se palper régulièrement les testicules pour surveiller ça ?
Certainement. Il n'y a pas de recommandation de fréquence, mais oui, bien sûr. Et surtout, savoir
comment
se dire...
on fait ça parce qu'il y a une méthode pour se palper les seins, est-ce qu'il y a une méthode pour bien se palper les testicules?
Le testicule c'est mobile, donc il faut palper à deux mains. C'est qu'il y a une main qui va tenir le testicule dans la bourse, qui va le faire jaillir au-dessus de ses deux doigts, et c'est l'autre main qui va palper le testicule. On peut le faire à plusieurs mains, c'est ça ? Pourquoi
non,
vous
riez ?
On peut se faire aider.
Alors, vous avez dit qu'il y a deux pics de fréquence chez l'adulte jeune, aux alentours de 20 ans, et l'adulte d'âge un peu plus mûr. Ça veut dire qu'il faut quand même sensibiliser les adolescents et leur apprendre ce geste, parce que la sexualité, d'une façon générale, c'est tabou, mais là, ce n'est pas une histoire de sexualité, c'est de l'éducation sur se palper les testicules. Il faudrait peut-être l'apprendre, ou au moins expliquer qu'il faut se palper les testicules.
Et connaître son corps sans fausse pudeur, absolument. Ça fait partie de l'éducation, je pense, oui.
Alors, si un homme sent ce que vous avez décrit, un petit noyau, comme un petit caillou, enfin une petite grosseur en tout cas dans l'un des deux testicules, ça veut dire qu'il faut aller donc consulter. Qui d'ailleurs ? Le généraliste ? Directement l'urologue ? On va voir qui ?
Non, je pense que le premier contact, ça peut être le médecin traitant, parce que c'est lui qui va vérifier est-ce qu'il y a un nodule ou pas, parce que les gens ne savent pas forcément. Si c'est réel ce qui palpe ou pas, et puis parce que ça peut être un kyste sébacé du scrotum, ça peut être la peau, vous voyez.
Et donc c'est après, pas toujours c'est... un cancer, tout ce que vous
non,
allez
non,
palper de
là,
dur
c'est...
dedans,
le
c'est... ne vous inquiétez pas non
rare.
Plus.
Mais par contre, il faut faire une échographie, et donc c'est l'échographie qui va me permettre de savoir s'il y a un nodule suspect de cancer dans le testicule. Il y a quelques tumeurs bénignes dans le testicule, et donc ça permet de. L'urologue après sera appelé pour savoir si c'est bénin ou s'il y a un risque de malignité, et ça touche en principe un seul testicule. Souvent, on dit j'ai un cancer des testicules.
C'est
pas vrai. C'est très rare.
C'est pas bilatéral en général.
Côtés. C'est un côté. Rarement, le deuxième côté peut être atteint. C'est quelques pourcents.
Et ce qui est un peu traître, c'est que vous l'avez dit, ce cancer n'est pas forcément douloureux et il ne gêne pas non plus la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des érections, des éjaculations, avoir des enfants.
Absolument. Et aucun retentissement ni sur la qualité des érections, ni sur la fertilité. C'est simplement un nodule dur dans le testicule. Indolore.
Et le kyste bénin dont vous parliez, ça s'opère aussi ? On les laisse en place ? Du coup, si ce n'est pas grave, ou soit c'est un kyste, soit c'est une tumeur bénigne, on fait quoi ?
L'échographie permet de le savoir. Si c'est un kyste, c'est liquidien, il n'y a pas de tissu à l'intérieur, rien de solide. Dans ces cas-là, si ça ne gêne pas, on le laisse. Sinon, on l'enlève.
Et quand c'est un vrai cancer un peu plus agressif, on retire la tumeur ou le testicule?
Alors ça, c'est une question qui est tout à fait d'actualité. C'est-à-dire qu'on trouve, heureusement, grâce au système de santé français remarquable que l'on a, les gens sont souvent pris tôt en charge, et heureusement. Et dans ces cas-là, on trouve des tumeurs toutes petites dans le testicule. La question est de savoir, c'est est-ce qu'on sacrifie tout le testicule, comme c'est la règle, en principe, un cancer du testicule.
Aujourd'hui, un cancer, on enlève le testicule.
C'est ce qu'on appelle l'orchidectomie, on enlève le testicule malade. La question est de se dire, peut-être qu'on peut enlever que la partie malade du testicule. Alors, ça avait été essayé dans quelques centres, notamment les militaires du temps du service militaire avaient une très très grosse expérience parce qu'ils voyaient justement les jeunes à cet âge-là au conseil de révision, ils palpaient les bourses, ils trouvaient les cancers. Donc, ils avaient une énorme expérience dans ce domaine et avaient essayé un peu de voir si on pouvait le faire. Les résultats n'étaient pas concluants et puis ça revient de façon internationale.
Si on n'enlève pas entièrement le testicule, il y a un risque de récidive, c'est
tumeur,
ça
ouais. On n'enlève que la tumeur en laissant le reste du testicule. Le problème, c'est que le cancer du testicule, c'est en fait l'aboutissement d'une anomalie de tout le tube, les 250 mètres de tube. Là. Il y a plein de cellules partout le long de ce tube qui sont un peu anormales et qui attendent que le moment de se développer en cancer. Donc le risque, c'est une récidive quelques mois, quelques années plus tard sur le reste du testicule malade.
Et du coup, si on enlève le testicule, à la place, vous mettez une prothèse pour la fonction esthétique?
Alors, on met une prothèse, oui, simplement esthétique. C'est une prothèse de silicone comme un sein en silicone de façon à équilibrer le scrotum.
Et ça reste malgré tout un cancer qui est de bon pronostic, c'est
excellent.
Ce qu'il faut dire aux gens.
Excellent, c'est qu'on guérit 95-96% des patients qui ont des cancers du testicule.
Et ils ont des enfants, ces garçons-là? Parce que c'est qu'on enfants. Imagine un testicule en moins. Non, on peut vraiment avoir des enfants ou même préserver la fertilité de ces hommes.
Le traitement du cancer du testicule, c'est la base, c'est l'ablation du testicule malade. Et on discute plus ou moins de la chimiothérapie si des ganglions sont déjà touchés. Et quand on regarde l'ensemble des patients qui sont soignés, on voit qu'il n'y a que 10-15% des hommes qui vont avoir besoin de paillettes misosécos. Avant de soigner
sperme
quelqu'un,
congelé, hein,
voilà.
C'est ça.
Avant de soigner un cancer du testicule, on demande à l'homme de congeler du sperme parce qu'il va avoir des traitements qui peuvent diminuer la fertilité, notamment chimiothérapie. Et on se rend compte qu'en fait, ça repart. Il faut, au bout de 2 ans, finalement, tout le monde redevient fertile.
Bon, écoutez, on a quand même des bonnes nouvelles de ce côté-là. Merci beaucoup, professeur Desgrandchamps, d'avoir été avec nous pour cet éclairage très intéressant et important aujourd'hui. On l'a compris, le cancer du testicule, c'est fréquent, mais pris tôt, on a toutes les chances de s'en sortir. Alors, soyez vigilants, messieurs, au moindre signe anormal, consultez. Merci encore, professeur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors, on va passer à présent à notre séquence Bobo du quotidien. Et aujourd'hui, pour la lancer, cette séquence, on va commencer par écouter la question qui nous a été laissée par Béatrice. C'est parti.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Je vous téléphone. J'ai vu l'autre jour mon voisin partir en ambulance. Et c'est une personne assez âgée. Alors, j'ai su qu'apparemment, il avait beaucoup de sang dans les selles. Et quand il est revenu, il m'a dit qu'il avait une diverticulite. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Est-ce que c'est grave?
Jimmy, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Est-ce que c'est grave, justement, la diverticulite? Et de quoi s'agit-il, tout simplement?
Alors, la diverticulite, c'est l'inflammation des diverticules. Diverticule, c'est ce qu'on appelle une hernie. Encore une fois, une hernie, ça parle à personne. Alors, pour faire très très simple, dans le tube digestif, vous pouvez avoir de façon totalement normale et sans symptômes, sans douleur, ce qu'on appelle des diverticules. Je ne sais pas si vous voyez le gruyère à la maison avec les petits trous. Eh bien, c'est ça que vous avez dans le tube digestif.
Ah, on imagine un truc tout lisse, mais pas toujours.
Exactement.
D'accord.
Et donc, il y a ces diverticules qui forment des petits trous dans lesquels, parfois, c'est une des hypothèses, un aliment pourrait se coincer, créer de l'inflammation et donner la diverticulite, qui est donc l'infection des diverticules.
Très bien. Alors, c'est quoi les symptômes qui doivent alerter vis-à-vis de ce problème?
Alors, les diverticules se trouvent essentiellement dans le côlon et le bas du côlon, tout au bas, qu'on appelle le sigmoïde. Et donc, c'est à cet endroit-là que ces diverticules peuvent devenir inflammatoires. Et donc, vous comprenez que vous allez avoir mal au ventre, des douleurs abdominales, plutôt à gauche, avec de la température et des troubles digestifs. Soit la diarrhée, avec parfois des diarrhées avec du sang dedans.
Ah oui, quand même.
Ou au contraire, de la constipation. Et parfois, on met des douleurs abdominales à tort sur un épisode de constipation, alors qu'en fait, vous faites une diverticulite.
Ah ouais,
donc, ce n'est pas anodin.
Ça ressemble un peu à une gastro aussi, ce que vous décrivez.
Exactement,
donc
ça peut. Mais on a vraiment très mal. Et ça touche une population particulière. Ça n'existe pas chez les enfants.
D'accord.
Et à ce moment-là, on va un peu plus loin. On fait des examens complémentaires qui montre qu'il y a cette diverticulite.
Pas d'enfant, mais du coup quoi, plutôt la personne âgée, c'est ça ?
C'est rare avant 30 ans.
D'accord.
Donc Mélanie, vous commencez petit à petit à rentrer dans la zone de risque. En revanche, ça touche plutôt l'homme d'âge mûr, d'accord, 60, 65 ans, et la prévalence, la fréquence augmente avec l'âge.
D'accord. Et si on a ce genre de symptômes, tout ce que vous avez décrit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est une urgence ou pas ?
C'est une urgence médicale et parfois chirurgicale, puisque lorsque vous avez ces symptômes, on vous fait une prise de sang. Si on suspecte cette diverticulite, on va avoir recours à un scanner, puisque c'est l'examen de référence pour savoir qu'il y a de l'inflammation au niveau du côlon. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de traiter cette infection. Et donc, on traite une infection bactérienne avec des antibiotiques. Vous suivez,
ouais,
je vous avez cru un peu perdu.
Non, non, je suis là, je suis toujours là.
On traite pendant une semaine à 10 jours et dans des formes un peu plus sévères, car il arrive parfois que les patients négligent les symptômes, mettant à tort sur une gastro-entérite, une constipation, laissent les douleurs traîner ou parfois vont prendre des anti-inflammatoires. Il y a de la surinfection, un abcès peut se former,
oula,
il peut y avoir une
péritonite.
Et là,
je sens le pire qui arrive. Ouais.
Et donc là, c'est une intervention chirurgicale en urgence avec un pronostic qui est forcément moins bon que dans une diverticulite traitée de façon conventionnelle par des antibiotiques.
Et si c'est grave, comme vous l'avez décrit, il peut y avoir des perforations. Enfin, je veux dire, on opère, on ouvre et quoi, on enlève tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on coupe le morceau du côlon qui est malade, ce qu'on appelle une colectomie, qui est souvent partielle, c'est-à-dire qu'on va couper un petit morceau, on va essayer de reboucher les deux morceaux. Parfois, on ne peut pas, ce qu'on appelle rétablir la continuité du tube digestif. On est obligé de vous créer une poche artificielle. Donc, en gros, tu crées une poche pour faire caca au niveau du ventre, tout
simplement.
Ce qu'on
appelle la stomie, c'est ça ?
C'est ce qu'on appelle une stomie. Et puis, une fois que vous avez guéri de la diverticulite, avec ou sans traitement chirurgical, vous devez avoir, dans les mois qui suivent, une coloscopie pour être sûr que derrière cette diverticulite ne se cache pas un cancer du côlon.
Mmh.
Et donc, on va faire cet examen pour deux raisons. La première, c'est de vérifier qu'il y a bien des diverticules, puisque si jamais vous avez fait une fois cet épisode, vous allez le rendre à faire un deuxième et un troisième, il y a un risque de récidive. Et vérifier qu'il n'y ait pas un cancer qui se cache derrière cette diverticulite.
Une fois qu'on a eu ça, on se remet bien. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans son hygiène de vie pour que ça revienne?
C'est la question qui revient souvent. Ouais. Faut-il changer son alimentation? Des hypothèses montreraient que parfois des pépins de la tomate pourraient se coincer dans les diverticules.
Ouais.
Mais les études montrent qu'il n'y a pas de régime particulier qui pourrait protéger ou créer une diverticulite. Donc on va dire que c'est au cas par cas. Et je vous conseille d'en discuter avec votre médecin.
Merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage très clair, comme toujours.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous comme tous les jours depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui fait son entrée en scène, Catherine Blanc qui est psychanalyste et sexologue à Paris. Aujourd'hui Catherine, on aimerait comprendre l'intérêt des plans à trois. Alors on aimerait, c'est pas Jimmy et moi, hein, c'est notre grand thème du jour.
Ah oui d'accord, j'ai voilà. Peur, on aimerait bien me regarder.
Non, mais je sais pas parce que je trouvais que je l'avais mal tourné, alors je recommence. Catherine, on voulait aborder le grand thème des plans à trois.
D'abord, convaincu Mélanie, parce que vraiment ça pas du tout.
Alors d'abord, est-ce qu'il y a des règles dans les plans A3? Nous on n'y connaît rien hein, avec Jimmy, il faut être très honnête.
Qu'est-ce que c'est maladroit, séquence.
Allez-y Jimmy.
Non mais excusez-moi, voilà, on est d'accord que plan A3, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse forcément les trois personnes, et Mélanie le dit quand même, est-ce que c'est dur?
Non parce que trois personnes plus vous, ça fait quatre là, donc enfin, bon bref, c'est
oui,
deux personnes.
Alors on est d'accord que plan A3 veut pas dire n'importe quoi.
Oui, c'est pas comme notre chronique là qui a commencé n'importe
là, c'est
comment
n'importe
en effet.
Quoi.
Donc plan A3. Alors je vais reprendre un peu les choses progressivement.
Allez-y, on vous écoute. On prend des notes.
Plan A3, c'est donc effectivement c'est un fantasme assez courant c'est-à-dire qu'il est en chacun de nous plus ou moins conscient d'ailleurs, parce que ça renvoie de toute façon à notre position idéale, pensée idéale, c'est-à-dire être aimé de façon de deux côtés et en même temps. Puisque c'est ce que l'enfant souhaitait, que tout soit dirigé vers lui, à savoir l'amour de maman et l'amour de papa. Ceci que nous avons dans notre structure, dans notre construction, nous le reportons également dans la sexualité. Et le but est de pouvoir avoir le fantasme, de pouvoir donner aux autres qui nous donnent de part et d'autre, de manière équitable, en tout cas fortement présent l'un pour l'un et l'autre. Et du coup, il y a un sentiment narcissique très fort parce que ça donne le sentiment d'être puissant, d'être valorisé.
Aimer
deux fois plus. Et être la priorité de deux personnes, ce qui évidemment...
Ou quatre.
Voilà. Ouais, donc dit comme ça, tout de suite, ça calme un peu d'entrée de jeu, vous avez bien raison. Mais du coup, on a l'impression que c'est plus un truc d'homme. Est-ce que c'est vrai? Il y a le fantasme de l'homme d'avoir deux femmes. Est-ce que les femmes ont ce même fantasme ?
Alors, les femmes ont ce même fantasme, bien sûr, pour la raison que je viens de dire. Mais effectivement, les hommes sont plus...
On a l'impression que c'est plus masculin. Ouais,
ils ont qu'un seul pénis. Ils peuvent pas, pourtant, sauf erreur de ma part, c'est compliqué de satisfaire deux femmes en même temps.
Mais oui, mais vous savez...
Déjà, réussir avec une, c'est
ils sont tellement forts, les hommes.
Oui, mais voilà, c'est un sentiment de toute puissance merveilleux. Alors, on disait aussi que... une hypothèse aussi allait dans le sens de la possibilité de pouvoir procréer. Donc de démultiplier la possibilité de transmettre ces gènes rapidement en faisant l'amour avec l'une et avec l'autre. Ça, au niveau de la construction, j'allais dire historique et physiologique de l'homme.
Maintenant, ce sont des hommes généreux, en fait.
Ouais, deux fois plus pas.
C'est ça. Super. Mais si nous en restons à notre époque et à nos urgences, je crois que c'est aussi une façon d'être où d'orloter par deux femmes. Donc c'est encore une fois cette histoire d'enfant qui a toutes les attentions et ceci sans frustration aucune. Et de pour tout le corps, qui est tout le corps pris en charge en quelque sorte. Et puis l'autre chose qui est le sentiment de toute puissance, d'être capable, d'être désiré par deux femmes et d'être capable de subvenir aux désirs de ces deux femmes. Donc c'est narcissiquement quand même très porteur. C'est pour ça que ce fantasme, on le retrouve vraiment très 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 souvent.
C'est parfois la décision de couples qui sont ensemble depuis certains nombres d'années qui tout d'un coup se disent on va essayer d'apporter une petite graine de folie supplémentaire et se lancer dans ce genre de hobby. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
De hobby.
Je ne suis pas sûre qu'ils le mettent en termes de hobby, mais oui, en tout cas d'expérimentation.
Le bricolage, le jardinage, pas les points à trois. Mélanie, qu'est-ce qui vous arrive ?
Je sais pas, non, je n'y connais absolument rien. Catherine, est-ce que ça peut quand même malgré tout fragiliser un couple qui pourtant irait dans cette démarche volontairement, chacun, pas forcé l'un par l'autre, quoi ?
C'est toujours difficile parce qu'une décision prise, c'est toujours prise par l'un des deux, suivi par l'autre. Et celui qui prend la décision, évidemment, est plus en capacité de vivre cette expérience, alors que l'autre a suivi par amour, a suivi par excitation, a suivi pour dire « j'ai même pas peur », etc. Mmh. Et puis après, évidemment, il y a la réalité de la compétence à pouvoir le vivre, parce que, évidemment, si c'est être désiré par deux personnes, c'est la personne qui est du même sexe que le numéro 3, eh bien, ne se sent pas nécessairement dans la même situation et peut avoir le sentiment d'une remise en question de son propre genre, de la valeur apportée par son propre genre et donc, du coup, faire naître une jalousie.
Donc c'est compliqué quand même, hein. Plus à 3, 2, 3, 4, c'est plus de problèmes, hein, je crois.
Oui, à 2, c'est déjà très bien.
Merci beaucoup, Catherine. Merci, Jimmy, pour cette conclusion. Voilà, donc je vous dis à demain, à tout le monde, évidemment. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, Mélanie.
Bonjour, Mélanie. Oh, bah, aujourd'hui, ça va vous plaire, hein, parce qu'il est question de panne sexuelle. Oui, oui, ah, oui c'est.
Mais ne révélez non, pas, c'est vrai. Je vous ai dit, Stéphane, ne pas tout révéler.
J'aime pas
sur
ça
Mélanie.
En général, mais bon.
C'est ce qui se dit dans l'open space, il rêve dans l'open space.
Ils ont passé une drôle de nuit de noces, c'est le thème du jour, Mathieu.
Chez les Gomez, tout va bien, merci.
Dans Historiquement Vôtre.
Ah oui, dans notre émission, oui, vous avez raison. On va parler de Philippe II Auguste et Ingeborg du Danemark. Ça ne s'est pas très très bien passé, vu qu'il l'a répudié assez vite, voire même le lendemain. Le duc et la duchesse de Berry aussi, où il y avait pas mal de monde qui était autour d'eux, c'était un peu flippant. Puis quant à moi, je vous parlais du prince Charles et de Lady Diana. N'en déplaise à Stéphane, je sens que vous êtes choqué d'avance, Stéphane.
Oui, absolument, c'est ça qui me choque le plus. Bref.
Rien ne nous choque à nous, hein. Donc on va vous écouter bien sûr. Merci beaucoup, ce sera une très chouette émission, j'en suis sûre. Et vous qui nous écoutez, restez sur Europe 1.